Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Alors le vestiaire, c'est toujours le dimanche, vous le savez, votre rendez-vous qui ne bougera pas, même si le samedi vous avez la grande gueulante désormais qui vous accompagne. Et donc dans le vestiaire léger cette semaine, ce qui nous a marqué, ce sont les hauteurs atteintes en saut à la perche en athlétisme au meeting de Ligue de Diamants à Lausanne, c'était il y a quelques jours. Alors rien de nouveau pour Armand Duplantis qui reste le meilleur, il a passé un saut à 6m21, mais derrière lui son principal rival, le grec Karalis, a passé 6m16, et c'est la première fois dans l'histoire de la perche que deux athlètes passe 6m10 dans le même concours déjà. Mais c'est historique aussi parce que il y a 9 participants dans ce concours qui ont atteint ou dépassé 5m80. Alors il y a les conditions très bonnes à Lausanne, on le sait, mais pendant toute la saison, les chiffres en tout cas montrent une densité derrière Duplantis jamais vue sur le saut à la perche. Les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça, le champion qui vous fait aller plus haut, parce qu'on a parlé, on a beaucoup parlé des champions qui écrasent peut-être, comme Pogacar. Est-ce qu'il y en a qui vous emmènent, qui vous inspirent et qui vous font passer des étapes? Alizé, toi, ça te parle, hein, quand t'entends ce qui se passe à la perche avec Duplantis? Est-ce qu'il y a des adversaires, des joueuses qui t'ont fait passer, des championnes qui t'ont fait passer des caps, tu penses, dans ta carrière?
Il y a toujours des champions et des championnes qui sont tellement inspirantes et inspirants qu'ils t'entraînent, en fait, qu'ils ont envie, ils te donnent envie de leur ressembler, en fait.
Des champions que tu croises dans ta carrière.
Et en plus, ça peut être dans le tennis, mais ça peut être dans d'autres sports. C'est ça qui est fabuleux aussi. Alors, c'est plus facile de s'identifier quand on est joueur de tennis et qu'on admire un autre joueur de tennis. Mais moi, je trouve que dans des attitudes, psychologiquement, dans l'audace, le courage, on peut aussi s'identifier à d'autres champions. Et un grand champion, c'est aussi celui qui s'est inspiré. Moi, dans ma carrière, il y a eu beaucoup de joueuses et de joueurs que j'ai admirés et qui m'ont fait être une meilleure joueuse. Quand j'étais petite, quand j'étais ado, j'étais une grande fan de Andy Roddick, par exemple. Alors, ça peut paraître un petit peu bête, mais sur le court, quand je pensais à lui, j'avais de la force. Je me disais, il faut que je fasse comme Andy. Je suis une showman. Je peux faire le show. Je me souviens, je limitais au niveau de ses gestes. Je servais comme lui, en termes de gestuelle. Et j'ai eu comme ça des champions qui ont jalonné ma carrière et qui m'ont donné de l'énergie. J'ai eu ma période Mourova, par exemple, pas plus tard qu'il y a 3-4 ans, hein, quand elle a fait finale à Roland-Garros. Quand je voulais être calme sur le terrain, je pensais à elle. J'ai dit, allez, tu fais comme Mourova.
Ah, donc tu observes beaucoup les autres.
J'ai eu Simona Halep, Justine Hénin, et en fait, dans cette observation, j'ai puisé en fait des choses qui m'ont inspirée en tant que joueuse et qui me donnaient des outils pour être meilleure.
Mais par exemple, tu as joué contre Serena Williams. Tu as battu Serena Williams.
Ça, c'est encore autre chose. De battre Serena Williams m'a donné confiance en moi et m'a fait me rendre compte que je pouvais passer dans une autre dimension et que je pouvais rivaliser avec ces joueuses-là. Alors ça, elle a pas vraiment voulu m'inspirer, cette pauvre Serena, puisque elle s'est fait battre. Mais en tout cas,
Duplantis ne veut pas forcément inspirer les autres en les éclatant.
On arrive à se mesurer à ces champions-là et quand on arrive à les battre,
à s'en rapprocher,
à les battre, on ça nous fait réaliser plein de choses sur nous-mêmes. Et c'est vrai que ça peut complètement tiré vers le haut, ça peut faire passer dans une autre dimension, passer un cap. Donc il y a vraiment des champions qui inspirent de différentes manières. Et c'est génial de rester dans cette observation et de vraiment donner du temps à son sport. Moi, j'ai donné beaucoup de temps à l'observation de mon sport, à regarder du tennis à la télé. J'en ai pas loupé une miette. Et je pense que ça m'a plutôt apporté des choses.
Tu regardais les matchs de Simona Halep avec un petit carnet, tu t'es dit ça, faut que je le prenne.
Mentalement, je pense que je note beaucoup de choses.
Je vais le prendre
pour moi. Et si un jour je la joue, je saurai que ça, elle l'aime pas, par exemple. Et ça fait devenir meilleur, forcément.
Marc Madiot, les champions qui font aller plus haut. T'en as croisé des champions.
Oui.
T'as été dans une équipe de Galactique, chez Renault.
Inno, Fignon. Lemon en même temps dans la même équipe.
Que des vainqueurs de Tour de France.
Ouais, et c'est inspirant parce que y a un défi quotidien quand t'es en stage avec ces coureurs de ce niveau. Tu es obligé d'augmenter ton niveau. Il y a une on parle beaucoup de l'équipe UAE aujourd'hui qui domine le peloton, mais c'est logique et normal. Quand on a un leader comme Pogacar, tout le monde dans cette équipe monte d'un cran, que ce soit l'encadrement comme les coureurs, tout le monde monte d'un cran. Et si par malheur, à un moment ou à un autre, Pogacar se retrouve en difficulté, vous verrez, l'équipe va se replier sur elle-même. Moi, je l'ai connu chez Renault avec, alors, Hinault était parti de l'équipe, c'était en 84. Il restait Fignon et Lemon dans l'équipe. On a gagné 10 étapes sur le Tour de France.
Vous étiez l'équipe UAE d'avant.
En fait. On était même au
plus fort, bien sûr,
plus fort aujourd'hui. L'année d'après, la même équipe, moins Fignon, on n'a pas touché une bille. C'est Hinault qui nous a mis une raclée.
C'est hyper intéressant.
Donc, c'est forcément important. Il y a un
une dynamique, en fait.
Ouais. Et une identification à l'équipe.
Mais toi, tu disais quoi quand tu étais avec eux, par exemple? Faut que je les tape, ces mecs.
Mais attends, déjà dans le vestiaire. Dans le vestiaire, quand tu mets le maillot Renault Elf de l'époque, tu mets pas le maillot d'une équipe lambda. Quand tu arrives sur la ligne de départ avec le maillot Renault Elf, les seuls que tu observais, avec qui tu traitais d'égalité à égalité, c'était les tirs à l'aigle. Mais les autres, on ne les regardait pas. On se sentait supérieurs. L'année d'après, quand le blaireau était dans l'autre camp, bah, c'est nous qui prenions une raclée. C'était l'équipe de la vie.
En fait, de traîner avec des champions, ça te donne une prétention presque.
Mais bien sûr, une fierté.
Et ça te fait progresser.
Une fierté. Ben oui, ça te fait
Pourquoi
progresser.
Parce que tu dis qu'il y a pas de plafond de verre, en fait.
Il y a pas de plafond. Et puis.
Et parce que tu vois comment il fonctionne aussi. Je pense que quand t'es.
Il y a une force qui s'installe. Il y a un rapport de force qui s'installe.
Mais t'osais les taper, les Hinault, les Mons, même toi, plus jeune qu'eux, par exemple.
Alors, tu allais te mesurer. Moi, je me souviens, je l'ai évoqué ici à plusieurs reprises, les réflexions de Laurent Fignon par rapport à Bernard Hinault. Bernard, t'as qu'à aller t'entraîner. Alors que le blaireau, il n'avait pas aimé. Hein.
Oui, parce qu'il
Et les semaines d'après, c'était plus la même. Hein.
Oui, donc, en fait, tu te.
Donc, il y avait un entraînement, un enchaînement qui faisait que tu te grandis. Et puis, il y a aussi le mimétisme, et je te rejoins, Alizé, là-dessus, en observant les autres.
Mmh. T'as beaucoup observé, toi?
Ah ouais, mais par exemple, moi je me rappelle encore aujourd'hui, et ça remonte dans le temps, ça fait une quarantaine d'années, le poignet couché sur les cocottes de frein de Roger Develamain qui baissait ses cocottes de frein pour avoir un cassé du poignet et être plus aéro sur le vélo.
Celui qui a le plus gagné Paris-Roubaix, Roger Develamain.
Ouais, et c'était un mythe. Quand tu vois une photo de Develamain aujourd'hui, il n'est pas du tout démodé, Develamain.
Surtout que toi, en plus, c'était ton type de coureur. Oui, mais toi, tu voulais gagner Paris-Roubaix.
Je voulais gagner Paris-Roubaix. Je regardais Develamain, mais quand j'étais encore gamin, je regardais la position d'Ocagna sur le vélo qui s'avançait sur la selle. Donc, gamin, cadet, même pas cadet, j'avançais sur la selle pour pédaler pour m'identifier à ce qu'était Ocagna. C'était pas forcément la meilleure position, mais je m'identifiais.
Mmh. T'es formé par les champions, en fait.
Mais bien sûr, t'es influencé, t'as envie de ressembler. Instinctivement, tu vas chercher quelque chose sur les sportifs que tu vois à l'écran.
Mais par exemple, tu penses que t'aurais gagné deux fois Paris-Roubaix si t'avais pas eu cet environnement ultra compétitif autour de toi? Est-ce que ça aurait été plus dur, en tout cas? Parce que c'est ça aussi, l'environnement t'aide,
l'environnement t'aide à
être
à
plus performant.
Franchir des barrières. Et l'environnement t'enlève le doute. Le fait d'être dans une équipe comme Renault, avec les coureurs que j'ai cités tout à l'heure, le fait d'être dans une équipe comme celle-là, t'enlève le doute. Tu n'as pas droit à la médiocrité. Tu n'as qu'un devoir, c'est d'être le meilleur. Donc,
en fait, tu l'exclus, la médiocrité.
Et tu exclus la médiocrité. Quand tu rentrais en briefing avec Guimard, il inversait les choses. Il te laissait penser que tu n'étais pas assez bon ou que l'équipe n'était pas la meilleure pour tirer le meilleur de l'équipe. Et il te mettait en situation de domination.
L'un des meilleurs exemples qui illustre ce que tu dis, Georges, c'est quand même la domination du Big Three au tennis aussi. Et ces joueurs qui se sont tirés mutuellement vers le haut parce que justement, il n'y avait pas de place à la médiocrité et qu'il fallait qu'à chaque fois l'un soit meilleur que l'autre, ils n'auraient jamais gagné autant de grands chelems, que ce soit Novak, Rafa ou Roger, si les deux autres n'avaient pas existé. En fait, là, c'est vraiment typiquement l'illustration même de le champion qui fait monter la concurrence.
Oui, ils ne seraient peut-être pas allés aussi haut dans le nombre de grands chelems qu'ils ont aujourd'hui s'ils n'avaient pas été tous les trois ensemble. Le champion qui vous fait tirer vers le haut, on est dans le vestiaire. Pas d'accord, Bennett?
Sur le nombre de grands chelems, je ne suis pas forcément d'accord, parce qu'ils étaient tellement forts qu'ils auraient
peut-être
gagné.
Peut-être sur le niveau de jeu, alors.
Mais sur leur niveau de jeu.
Ouais, peut-être. Non, mais je te le concède.
Non, mais on a en plateau dans les grandes gueules du sport quelqu'un qui a battu Serena Williams, quelqu'un qui a battu les meilleurs du monde, qui a gagné des monuments en vélo. Et toi, t'as battu Roger Federer, par exemple, Bennett. Non, mais c'est un truc quand même.
Je m'en souviens super bien à Bastille.
Parce qu'on parle des champions qui vous font aller plus haut. Quand tu joues contre un champion, est-ce que inconsciemment, ton curseur n'est pas au même niveau?
Tous les curseurs ne sont pas au même niveau.
Mais
parce que si tu veux avoir une chance, inconsciemment, tu les montes.
Parce que là, c'est ce qui se passe avec les perchistes face à Duplantis.
Ouais, exactement. Et ils les montent, eux, dans leur préparation et dans leur méthode d'entraînement, certainement, pour aller chercher des performances plus hautes.
Et toi, tu te sens comment quand tu rentres sur le terrain face à Federer? qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce qui se passe de différent?
Je me dis que si je veux avoir une chance, le match on l'a préparé d'une certaine manière, il y a des choses à essayer de mettre en place, et une fois que tu arrives à les mettre en place, après pour les garder, pour aller chercher le petit truc, il faut être dans un niveau de d'implication, de concentration qui est extrême.
Et t'es dans une concentration inhabituelle, en fait.
Exactement. Et en fait, le plus dur, c'est d'arriver à retrouver ce niveau de concentration extrême. Comment tu le fais? Est-ce que à l'entraînement, tu dois être encore plus exigeant sur certaines choses?
Oui, mais comme tu sais que t'es arrivé là, tu sais que tu peux le faire, en fait.
Oui.
Tu t'es montré que tu pouvais le faire.
Oui, mais c'est la grande différence. Après, c'est-à-dire que, tout à l'heure, on comparait avec les données, les watts, la différence entre le tennis et le vélo. C'est-à-dire que si physiologiquement t'es capable une fois de tenir le Tourmalet ou l'Alpe d'Huez à tant de watts avec les meilleurs, tu te dis ok, je vais essayer de refaire des séances d'entraînement qui vont me permettre d'atteindre ces niveaux-là. Comme ça, après, je vais les refaire. Au tennis, il y a le jeu en lui-même, c'est-à-dire que moi, momentanément, j'étais capable de hisser mon niveau de jeu à celui de Roger Federer, mais avec mon style de jeu, j'avais pas de marge contre quelqu'un qui était 50e, 60e, 80e mondial.
Et en plus, tu le jouais pas tous les jours, Federer.
Et Federer, et les mecs, je jouais pas tous les jours. Là où Arthur Fils, on parlait tout à l'heure, il est en train de développer une force physique, mentale et de tennis qui fait qu'il perd pas contre les autres. Moi, je dépensais autant d'énergie pour battre un mec au premier tour 60e mondial que pour essayer de battre Federer. Mmh. Tu vois, il y a aussi la qualité tennistique, le style de jeu qui fait que c'est
la
différent.
La marge, ouais.
Et Fils, il progresse parce qu'il affronte de plus en plus de top 10.
De jouer contre eux et de s'entraîner avec eux. Ouais. Et sur les tournois, le truc, c'est
même
c'est
de s'entraîner avec eux, ah oui, ça joue.
Bah oui, tu t'habitues à la qualité de balle, tu t'habitues à la vitesse de la balle, tu t'habitues à l'intensité.
Parce que les mecs à l'entraînement, les champions, ils envoient.
Bien sûr.
Je sais pas, c'est les entraînements.
Ils vont mettre leur gros entraînement contre des gros.
C'est vrai.
Ah ben t'as intérêt à être pote avec l'un d'eux.
Mais bien sûr. Moi j'ai discuté avec.
C'est des sectes, hein.
Non mais. Et puis ils ouvrent très.
Parce que la perche, là, ils sont tout le temps ensemble, en fait, justement.
Exactement.
La perche, ils sont tout le temps ensemble. Exactement. Les mecs, c'est une famille.
L'athlète, c'est comme ça.
Ils se hissent tous vers le haut ensemble. Quand il y en a qui fait deux, ils font, ah, c'est super, t'as fait deux, c'est génial. Mais il y a une idée de la progression ensemble. Donc les top 10, les top 20 ensemble, c'est hyper intéressant.
Il y a quelques années, Yannick Sinner était encore très jeune. Il était entraîné par un Italien, Riccardo Piatti. Et à l'Open d'Australie, je discute avec Riccardo Piatti sur les méthodes de préparation de Sinner. Et c'était à l'époque où. Il y avait eu le Covid et les bulles sanitaires à Melbourne, en Open d'Australie, où avant d'arriver au tournoi, il devait passer 15 jours au même endroit avec un seul joueur pour s'entraîner. Piatti, des semaines en avant quand ils ont su ça, il a contacté le clan Nadal en disant « Est-ce qu'on peut faire les 15 jours avec vous ?» Malin. Mais Sinner, à l'époque, il était 30e, 40e mondial, il avait 18 ans. Ils ont fait ça. Il m'a dit « On a fait 15 jours ». Et je lui dis, alors, c'était comment? Il me dit, écoute, Nadal jouait beaucoup. Et donc, moi, ce que j'ai demandé à Sinner, c'était que sur le premier jour, il mette la même intensité que ce qu'il sera capable de faire dans 14 jours, quand il aura joué pendant pratiquement 14 jours de suite. Il y avait peut-être des demi-journées de repos par-ci, par-là. Avec l'intensité et la qualité de frappe que va mettre Nadal à l'entraînement. Et pour moi, c'était primordial qu'il puisse tenir dans la durée.
En fait, c'est intéressant parce que peut-être que Sinner, cette semaine avec Rafa, ça lui a fait passer des niveaux aussi.
C'est un accélérateur.
Et ça fait partie des explications de son émergence dès le jeune âge. Tout de suite, il est invité dans le sérail, comme tu disais.
Mais évidemment, l'année dernière, Alexandre Muller, qui a fait une super saison, cette année, il est un peu plus dans le dur, mais qui avait gagné son premier tournoi à Hong Kong, etc., il disait qu'il avait eu l'opportunité de jouer avec des mecs un peu plus fort que d'habitude à Dubaï dans la préparation, et que de voir qu'à l'entraînement, tu prends pas 6-2, mais tu fais 6-4 ou 7-5, et que deux jours après, tu rejoues avec le même mec et que tu lui tapes un 7 à l'entraînement. Il s'est prouvé, il s'est dit, tiens, l'intensité, je commence à m'habituer, j'arrive à tenir ce niveau de jeu, et tu débloques des choses.
Alizé, on parle de ces champions qui vous font aller plus haut dans le vestiaire.
Et il y a cet aspect-là, et il est indéniable, mais je trouve qu'on pourrait pousser la chose un peu plus loin, c'est qu'un champion, il devient inspirant si on a la curiosité de s'y pencher aussi. Par exemple, un Novak Djokovic qui a poussé tous les curseurs de la performance jusqu'au plus haut sommet, à un moment donné, je pense qu'on arrive à progresser si on regarde aussi ce qui se passe chez les champions. Qu'est-ce qu'il a poussé comme curseur? Qu'est-ce qu'il fait de mieux que les autres? En fait, si on s'y intéresse pas, à un moment donné, on peut faire du mimétisme, on peut essayer de recopier, on peut s'entraîner avec les meilleurs.
On gagne pas tout seul quand même. Quoi.
Voilà. À un moment donné, il faut se pencher sur ce que font les champions de différents. Et en fait, cette curiosité-là, je pense que c'est une grande force.
Djoko, c'est le meilleur exemple possible. Je me souviens, moi, c'était 2008 ou 2009, on était sur circuit. Devant lui, il avait Federer, Nadal, qui était à leur prime. Les mecs, c'était des monstres. Federer à Wimbledon, il perdait jamais jusqu'à ce que Nadal le batte. Nadal perdait jamais à Roland-Garros. Il se partageait l'Open d'Australie, l'US Open. C'était monstrueux. Mm. Et l'autre, il est là, il est troisième mondial. Il a 21 ans ou 22 ans à l'époque, 87. Et là, il dit, je vais être numéro un mondial. On était en pleine saison d'été aux États-Unis. Je crois que c'était Toronto. Et là, moi, dans ma tête, quand je lis ça, je me dis, putain, mais le mec, il est couillu, quoi. Putain, mais... Et devant lui,
à vous, tu t'es dit autre chose.
Mais devant lui,
fou lui.
Mais je me suis. Mais après, je le voyais s'entraîner entre les matchs. Et quand Alizé disait, il faut se pencher, qu'est-ce que je fais? Il avait un service pas terrible. Il avait pris Todd Martin, un ancien joueur américain, pour le service, etc. C'était une catastrophe. Il l'a entre guillemets viré. Il est revenu. Il a cherché. Il a pris des risques. Putain, mais. La progression tennistique de ce mec-là, elle est monumentale.
Et après, t'es obligé d'observer sa façon de travailler. Du coup, tu dis, il faut faire comme lui. Donc, c'est en ça qu'il te tire vers le haut. Il regarde les jeunes coureurs, Marc. On regarde encore beaucoup aujourd'hui. Je sais pas. Tiens, je vais utiliser la même position. Gremco.
Oui, bien sûr.
Le matos aussi,
oui.
Aussi la dimension matérielle
mais
en vélo.
Mais oui, bien sûr. Bien sûr. En plus, aujourd'hui, il y a plus de moyens à disposition pour observer ce qui se passe. Chez tous les coureurs. Donc,
qui te tirerait vers le haut, toi, aujourd'hui, comme coureur? Qui tu regarderais? Qui tu conseillerais de regarder, un jeune coureur? Bon, tu parles souvent de Van Aert et de Van Der Poel,
ouais,
par
Van
exemple.
Poel, ouais.
Oui, ce serait plus ce style de coureur parce qu'ils ont une palette d'évolution dans tous les domaines et sur tous les terrains. Donc, c'est ça qui est intéressant avec ce style de coureur. C'est-à-dire que leur capacité d'adaptation s'adapte à tous les styles de coureur. Si on se réfère à Pogacar, même si Pogacar est presque comme les deux autres, il y a beaucoup. Ou par exemple, si on regarde un Vingegaard, il est quand même très typé Vingegaard. Il essaie d'un peu évoluer, mais ouais. Un jeune coureur aujourd'hui, il faut s'inspirer de la culture cycle. En fait, c'est un problème de culture. Quand on s'appelle Van Aert ou quand on s'appelle Van Der Poel, on est forcément issu d'un endroit où il y a une vraie culture. Et la Belgique et la Hollande, enfin les Pays-Bas, c'est quand même des endroits où il y a une culture cycliste extraordinaire.
C'est pas pour rien que eux l'hiver ils font du cyclocross.
Ils font du cyclocross ou ils vont sur la piste ou mais il suffit de se rendre dans les Flandres à certaines périodes de l'année pour se rendre compte de ce qu'est la culture cycliste. Et ça, on l'a beaucoup moins chez nous, moins en Italie ou moins en Espagne.
Oui, t'as les inspirations qui sont plus nombreuses, effectivement, quand t'es dans cet environnement-là aussi. Les champions qui vous font aller plus haut. C'était passionnant de vous écouter, les GG. Vous retrouvez évidemment le vestiaire en podcast.